dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Je considère depuis que quand je croise 100 mecs dans la rue, j'ai croisé 99 cons, c'est-à-dire 99 mecs qui sont prêts à obéir à un ordre, à une demande, sans réfléchir.
En fréquentant l'équipe de Charlie et côtoyant des gens du Canard, t'as jamais eu envie d'écrire? Ils t'ont pas proposé de...
Non. J'aurais fait un papier, il aurait pas refusé, oui. Alors on me dit, t'as eu la chance de faire ces rencontres. Je dis, non, pas eu la chance. C'est pas le hasard. Quelque part, on les provoque.
Rencontre rebelle avec Jean Cérès sur Dissonance.
Aujourd'hui, Dissonance nous invite à partager une heure avec un rebelle, un homme de conviction, un homme de rencontre. Jean Cérès. Nourri par son enfance chez des parents communistes, caractère forgé par son séjour en Allemagne lors de son service militaire, il a accompagné pendant sa période parisienne le poète-philosophe André Dupont, plus connu sous le nom de Mouna Aghigi. Il a côtoyé Cabu, Gébé et Rézère, les fondateurs de Charlie, les jeunes Jacques Higelin, Brigitte Fontaine et Pierre Barou, avant de revenir sur ses terres aveyronnaises où il s'investira à sa manière dans la lutte du Larzac. S'ensuivra une fabuleuse tournée en Allemagne avec le chanteur Claude Marty et le responsable viticole Jean Vialade. Une vie faite d'action, résolue et déterminée, ce qui le fera parfois agir aux limites de la légalité, ce qui lui vaudra aussi d'être exclu de la CGT et de la CFDT. Résolument antifasciste, il fera trembler Le Pen lors de sa venue à Rodez, participant au SCALP et au réseau No Pasadan. Proche de la scène punk des années 70-80, franc-tireur libertaire, adepte du sabotage efficace, écologiste avant l'heure, éternel défenseur des opprimés, Jean Cérès nous conte, cigarette au coin des lèvres, une tranche de vie au cours de laquelle il a été et est toujours acteur et témoin de cette gauche radicale qui, des années 68 jusqu'à aujourd'hui, continue à exister et à construire.
Rencontre rebelle avec Jean Cérès sur Dissonance.
Je m'appelle Jean Cérès. Je suis né à Cadenac, Aveyron, une ville essentiellement du chemin de fer, quoi. J'ai une enfance à peu près comme tous mes copains, aucun problème. C'est une chose. Mon père était communiste et chaque dimanche midi, on opportait l'humanité dimanche. Je ne lisais pas les pages politiques, à 6 ans ou 7 ans, mais les pages culturelles, ça m'intéressait. C'est là que j'ai découvert des gens comme Picasso, Calder, tout ça et d'autres, et que je me suis intéressé en général à tout ce qui est culturel. Le cinéma, surtout la littérature et tout ça. Et j'ai découvert ce qu'on appelait à l'époque le protest song avec John Baez, Bob Dylan et compagnie. Et pour moi, un des événements dans mon adolescence, ça a été le disque Auffray chante Dylan. Ça m'intéressait, ces trucs contre le racisme, l'injustice et tout ça.
T'avais quel âge quand t'as découvert ces disques?
Oh, 15 ans, 16 ans, oui. Je me sentais différent des autres, différent au niveau réflexion. J'avais des idées déjà différentes des autres. Et même les copains s'en rendaient compte, ils me le disaient. Ils m'appelaient Jeannot le philosophe ou Jeannot le poète. Donc, j'ai fait des études techniques à Aubin. Puis dès que j'ai eu mon CAP, j'ai pas eu envie de charger du travail. Je faisais des petits boulots de survie. Je faisais des fois la manche avec la guitare, aux terrasses, les cafés, au bain, à Rodez même, aux colonnes, j'ai fait. Et je me suis vachement intéressé à la littérature du mouvement beatnik, là. Jack Kerouac, Ferlinghetti, tout ça. Même avant 68, c'était ça. 66, 67. Je faisais des petits boulots. J'ai fait la paille pour les chaises à Touareg, dans le Lot. J'ai peint des clôtures de jardin, je fais un peu de tout. Et mon père, lui qui était fonctionnaire, il voyait ça d'un très mauvais œil, que son fils soit un rêveur. Surtout que j'avais croisé un sculpteur sur pierre, et il m'avait pris comme étant son élève, et tous les mercredis, parce qu'il y avait non, tous les jeudis, parce qu'à l'époque, le jour de repos de la semaine, c'était le jeudi, j'allais apprendre la sculpture sur pierre et sur bois. C'était un côté de Capelac. Donc j'avais déjà la tête ailleurs, quoi, voilà. J'étais différent des autres. Puis, mon père, un jour, il m'apprend, il se fout en colère. Tu voudrais avoir une vie pas plus sérieuse. Et du coup, j'ai passé tous les concours qu'il y avait. EDF, PTT, SNCF, tout. Le premier qui me répond, ça a été les PTT. Et je me suis retrouvé à Paris en fin juillet 68. À Paris, voilà, à travailler. J'étais dépanneur de téléphone chez les gens.
Les PTT, pour les plus jeunes, c'est les ancêtres des France Télécom.
Ouais. Qui maintenant est devenu Orange.
Donc, on est là après mai 68, tu arrives juste à Paris après mai 68.
J'ai vu la dernière barricade à la Bastille. C'était fin juillet. Service militaire, je pouvais être appelé. Alors, d'un bon boulot, en dépannant le téléphone chez les gens, j'avais fait connaissance avec un radiologue, un jeune sympa, j'avais bien sympathisé avec lui. Et on discute, j'y parle de mon cas, et il m'a fait des radios, je ne sais pas ce qu'il a trafiqué. Mais apparemment, d'après les radios, je ne pouvais pas être au service militaire. Donc, quand je n'ai pas servi de médical, pour être incorporé, le médecin il m'a dit, vous n'êtes pas bien, on vous ajourne. Il m'a dit, dans un an, vous repasserez un nouveau comité. Il m'a dit, vous savez, à l'armée, on est bête, il nous faut un dossier épais. Donc j'étais censé être appelé dans l'armée un an après. Un an après, je suis convoqué. Ils m'ont dit, le dossier est mince. Vous allez être appelé très rapidement au service militaire. Et un jour, je reçois une convocation. Je vais être appelé peut-être deux mois ou trois mois après. La date passe, aucun appel. Et les semaines, les mois passent. J'ai tout fait pour ne pas y aller. Maintenant que je suis prêt, ils m'oublient, ils me perdent.
C'est l'administration.
J'envoie un courrier au comité de soutien aux objecteurs de conscience. En leur disant, voici mon cas. Qu'est-ce que je fais? Je fais le mort. Et les semaines passent, les jours passent, pas de réponse. Je vais les voir. J'apprends que leur boîte aux lettres avait été facturée, dévalisée. Et c'est là que l'armée, en piquant les lettres, m'a retrouvé. J'avais 4 jours pour rejoindre Châteauroux. C'était le rapide. Châteauroux, 1 mois de classe. J'ai vu les conneries de l'armée. C'est-à-dire arroser une pelouse sous la pluie parce que faut l'arroser, c'est prévu. Donc, même s'il pleut, on arrose. Faire retourner un camion toute la journée sur une piste d'avion pour pouvoir cramer du carburant et que l'année suivante, on en soit doté davantage. Des trucs comme ça. Alors, je te passe le passé, le lit au carré et tout ça. Bref, 1 mois. Puis, ensuite, j'étais nommé au Fort Bicêtre à Paris, à côté de la porte d'Italie. Voilà. 3 mois, il me faisait faire, comme je connaissais Paris, il me faisait amener les consultants ou bien les malades à l'hôpital du Val-de-Grâce ou bien au Valérien pour aller chez un dentiste. Alors, rapidement, j'ai vu le coude. C'est-à-dire une fois par semaine, ça aussi. J'avais un paquet de tickets de métro. Je disais au mec, toi, pour aller au moins derrière, tu passes ça, ce métro, puis le bus, note le numéro, tout ça, t'as les tickets, puis... Et moi, j'allais retrouver mes anciens collègues à mon ancien boulot, en uniforme. J'allais manger à la cantine des PTT, en uniforme et tout. Et je rentrais le soir. Je passais la journée dans Paris. Puis, au bout de 3 mois, affecté en Allemagne, alors que tous les mecs ont été rapprochés de chez eux. Ceux qui étaient d'Avignon ont été au bagne, les Toulousains ont été mis à Francazal. Moi, putain, en Allemagne, j'étais le seul. Bon, j'ai bizarre encore ça. Et je me retrouve dans un train qui partait pour l'Allemagne avec tout mon paquetage. Bon, j'avais mis le train. Alors la ville où je vais aller, en Allemagne, c'était Sarrebourg. Bon, là, j'étais affecté dans une compagnie qui faisait de la réparation du matériel radio. Là, j'ai dit, voilà, ça fait un moment que tu fais le compte, t'as payé les conséquences, j'arrête tout et fini de faire le compte quand même. Temps. Je faisais des bombages sur les murs, évidemment.
Ah, c'est pour ça que tu t'es retrouvé en Allemagne, alors ?
À cause de mon passé.
De fils de communiste ?
Ouais, d'avoir fréquenté les aviateurs de conscience. Ils avaient dû me voir dans les manifs, tout ça. Ça a été la punition, quoi. À cette compagnie, je n'avais rien de défini. Ils m'ont fait faire une mission dingue un jour. Il y avait un officier, il faisait la collection des insignes de régiment. On m'a donné une voiture avec des jerrycans d'essence, tant que je voulais, avec pour mission de faire toutes les garnisons françaises en Allemagne pour acheter là, le truc. Alors j'ai pu choisir un copain, on est parti à deux. Et ça a été 4 jours de tourisme. Et puis un beau jour, le capitaine, il me convoque, il me dit, Cérèse, il existe une espèce de compétition au sein des garnisons françaises en Allemagne. On vous offre une semaine à Berlin, tout frais payé. Qui c'est qui désignait? C'est vous, parce qu'on considère cette année que c'est vous le plus méritant. Et pour quelle raison vous avez fait le retour du mauvais chemin dans le bon chemin. D'accord. J'ai été à Berlin. Il y avait des mecs de partout, oui. Mais apparemment, d'après les premières discussions que j'avais eues, c'était rien que des faillots, le mec, j'étais le seul rebelle. Et j'ai pu aller à Berlin-Ouest. Il y avait ce qu'on appelle l'Université libre de Berlin, à l'époque. C'était une université. C'était en 71. Elle était très marquée à gauche, extrême gauche. Et j'y étais. En uniforme, je m'en foutais. L'uniforme, pour moi, c'était laissé passer. Hein. Et ça, j'ai mis dans mon rapport. J'ai mis mes commentaires sur la visite à l'Université libre. Et le rapport, je n'ai jamais pu le faire lire à mes collègues. Ça a été la poubelle. J'ai fini mon année en ayant plus de problèmes. Mais je reconnais que quand j'étais en Allemagne, je me suis tué, je n'ai plus fait de... Je me suis calmé, quoi, parce que quand je me rendais compte de ce que je payais, je n'ai eu qu'une permission pour revenir en Améron, qu'une seule. C'était galère un peu.
Rencontre rebelle avec Jean Serres sur Dissonance.
Donc, je me retrouve à Paris. Je réintègre les PTT, encore. Et j'étais au service des cabines. Service des cabines, c'était le service qui faisait l'entretien de tous les taxiphones qu'il y avait dans les rues, aux arrêts de bus, les trottoirs, tout ça. Et on était 80 et on couvrait tout, Paris et la banlieue. Moi, j'avais un secteur sympa qui prenait le Père-Lachaise, Ménilmontagne, Belleville, Port de Lille. On prenait le travail le matin par téléphone. Bruno Patrice, elle nous donnait les dérangements, l'adresse des cabines en panne, et le soir, on les rentrait. Une indépendance totale. On avait un laissez-passer pour le métro. Peinard. Et chaque soir, j'étais au quartier athée, parce que c'était là qu'il y avait une vie. C'est là que j'ai... Bon, il fallait protéger... Chaque week-end, la librairie Maspero, parce que les fachos, ils venaient l'attaquer. C'était un jeu, la fin, entre les fachos et nous.
Donc tu étais déjà dans un réseau de copains antifascistes.
Ouais. Disons, c'était la frange autonome, quoi, les gens inorganisés, parce qu'il y avait la Ligue communiste, il y avait des trucs bien carré, tout ça. Et puis il y avait toute une faune de gens inorganisés.
S'il est bien court le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte et dame fortune en mettant de perte ne pourra jamais combler ma douleur. J'aurai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde. Vive le temps des cerises! Vive le temps des cerises! Vive le temps des cerises! Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère.
Je rencontre Moulin.
Alors, qui c'est Moulin?
Moulin. Bon, c'était en pleine époque hippie et pique-nique. On l'appelait le pape des hippies, le pape des pique-niques. C'est vrai qu'il cultivait un peu son rôle, ce personnage. Et il improvisait des discours sur les boulevards. Ou bien il y avait une statue montée dessus, il prenait la parole.
Et la teneur de ses discours, c'était quoi? Non-violence?
Non-violence, l'écologie, contre l'armée. Voilà, c'est ça.
Il éditait un journal aussi, je crois.
Ouais, le Mon Affaire. Il fait un petit journal, Mon Affaire, qui était fait par des jeunes du Canard Enchaîné. C'est eux qui l'écrivaient, c'est eux qui faisaient la mise en page et tout ça. Bénévolement. Mouna avait un carnet d'adresse incroyable. Toute la presse le suivait. Il faisait une action, il passait un coup de téléphone à l'agence France Presse, mais tous les journaux le lendemain en parlaient. Par exemple, un jour, Le Parisien, il publie une photo. Les pique-niques sont sales. Ils font l'amour sur les quais de Paris. On rassemble tous les mecs. On irait maintenant le punk chien. Ouais. Les mecs qui traînaient. Des sons plastiques, des bras, des brosses. Et on va laver la photo, la statue du boulevard Saint-Michel, la fontaine.
Ouais.
Coup de téléphone avec toute la presse. Les pique-niques sont peut-être sales, mais ils rendent Paris propre.
Notre siècle, en trois mots, l'arnaque.
L'arnaque.
La barbaque.
La barbaque.
La matraque.
La matraque.
La bombasse, plus de tâches, c'est caca la pollution.
C'est caca la pollution.
Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, une action symbolique. Un jour qu'il y avait la flotte américaine à ras de Toulon, on a fait une attaque de la flotte à pédalo.
À Toulon?
À Toulon. Des trucs comme ça. Bon. Avec lui, j'ai connu toute la bande à Charlie Hebdo.
Il fréquentait donc Abu Oliski.
Ouais. Même, il nous donnait des lessignes pour faire le journal et tout. J'ai bien connu là, GB, Rezer, ouais. Cavana, Choron. J'ai pas trop fréquenté son personnage, il m'intéresse pas. Mais Capu, ouais. Réserve, ouais, super. GB, ouais. Je te dirais que le Charlie Hebdo de maintenant, je peux plus lire, c'est fini.
C'était l'époque Harakiri, non, ça même ça,
Ouais. C'était 71, 72, quoi.
Et vous vous retrouviez le soir avec Moula, c'était
qui? Ouais. On s'est retrouvés dans un café du quartier Antin. La patronne était une raque, là même. Ah. On était chez nous. Quand on voyait les flics qui passaient dans la rue, on disait c'est plus la merde. C'est plus la merde, mais fort, tu vois. Pour... Au côte, on faisait côte. J'ai découvert aussi avec lui. Alescoff, qui faisait du théâtre.
Oui.
Théâtre de guérilla, qu'on appelait à l'époque. Allez, j'étais venu bien copain avec lui. Je leur fis un coup de bec, dans la mesure que il jouait un petit théâtre derrière la Sorbonne, ça s'appelait Théâtre Mouffetard. Il était en cours de rénovation. C'était interdit de fumer. Alors il y a eu expulsion, réoccupation. Donc c'est un point de litige par rapport à la police. Alors moi, je restais à l'entrée. Je demandais au mec de jeter la cigarette parce qu'il y avait des flics dedans et il fallait éviter les prétextes. C'était l'époque de la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Il avait fait une pièce où il le tournait en dérision, c'est Jésus Fric, super crack. Ah. L'affaire T. Puis il a fait un film après. Non, il écrit un bouquin, Le Pantalon Rouge, sur un mec qui, en 14, avait été fusillé parce qu'il ne voulait pas mettre un pantalon taché de sang d'un autre. Ah. Ben, voilà. Avec Moula, j'ai rencontré Pierre Barou.
Ah oui.
Sarava, ouais.
Sarava, un musicien, un auteur compositeur.
Ouais. Alors avec lui, j'ai connu Jacques Higelin, Fontaine, Areski, tous les groupes qui passaient à Sarava. Et il y avait des soirées Sarava dans Paris. T'avais Gelin, Fontaine, c'est un peu pareil. Mais t'avais un Américain, David Goodman. Il y avait un Africain qui jouait de la chorale. Pierre Akelengue. C'était très varié en musique.
Et tout ça grâce à vous, là. Tu as rencontré tout ce
monde. Ouais. Et il y a même un disque, c'est qu'on chante. C'est le groupe Pop Machoun qui a enregistré. Et Pierre Barocchio, il nous laisse un peu, il nous reste un peu de place. On va mettre Mouna et puis on a chanté Le Dénicheur sur un disque de pop de Machoun. J'ai joué au flipper avec Jacques Gelin. Bon, bref. Année 73, 74, tout ça. J'ai rencontré Arabal, le mec du théâtre.
Il n'y a pas une histoire d'élection avec Moulin ? T'as pas fait de liste ?
Ah ouais, ah. On a fait. Il s'est présenté aux législatives dans le 5e arrondissement. Il est fait le suppléant. C'était moi le suppléant. Les affiches, on a très peu d'affiches, on n'en voulait pas. Elles avaient été faites par des groupes des Beaux-Arts. La seule pub qu'on faisait, c'est que sur les contre-marches du métro, on écrivait à la craie les... où étaient les réunions.
De Moulin,
bah, ouais.
Et quel était le programme que vous défendiez avec Moulin ?
Le Larzac au paysan, plus de nucléaire, la voiture, il y en a trop. C'est nous qui avons fait la première manif à vélo dans Paris, la première. Bon, ça c'est un mélange.
Écologiste avant l'heure.
Écologiste avant l'heure, extrême gauche, tu vois, tout ça.
Il y avait un côté libertaire dans tout ça,
oui,
dans
oui,
ce groupe.
Oui. C'est-à-dire qu'on écoutait la contradiction, on essayait d'avancer, on ne la rejetait pas, tu veux, toi.
Mais le but, c'était pas d'être élu, c'était d'avoir une tribune.
Ah oui.
Et les médias vous suivaient ?
Oui, tous. Pour certains, mettons pour les gens comme Le Parisien, c'était un côté comique, sympa. Et pour d'autres. Mettons le canard enchaîné, on était les plus sérieux, tu vois. Et à tel point qu'il y avait eu 13 candidats, on était les 6e avant les Verts.
Pour me présenter, j'annoncerai la couleur en disant c'est la personne qui passe là, eh bien, il est un Don Quichotte des temps modernes, il est citoyen du monde, il est cyclodidacte, il est cosmonaute du subconscient, il est. Un citoyen des galaxies, du cosmos, où chacun de nous cherche l'os, l'ossature du futur. C'est pour les générations futures que ma vie, je l'ai terminée les 40 dernières années en criant pour le bonheur et pour contre toutes les pollutions, car il n'y a pas de planète de rechange. Il faut que ça change dans les mentalités, voilà. Fini. Le rideau est tombé.
Rencontre rebelle avec Jean Serres sur Dissonance.
Mais il y a un truc important, je te dirai. Et en 74, à l'époque, il y avait des wagons postaux. Et ils étaient en tête du train, donc en bout de quai, hors des protections. Les verrières. Les mecs, un jour qu'il pleuvait, ils avaient marre d'être mouillés, ils se mettent en grève spontanée, et en disant, on veut des imperméables. Le mouvement a fait tache d'huile, les bureaux de poste ont suivi, et les télécoms ont suivi après. Grève, moi j'ai fait grève pendant un mois et demi.
Wow. Et tu t'es syndiqué ?
Oui, j'étais syndiqué. Alors, bon, je te dis, on était 80 à son service. Il y avait un seul syndicat, la CGT. Moi, je me suis syndiqué un an. Et puis avec mes pratiques, ils n'ont pas voulu renouveler ma carte.
C'était quoi tes pratiques, Jean?
Bon, la grève 74. On fait grève, le matin on se retrouve au bureau, on vote et puis tous, ils partaient à la pêche, à l'étanneur à mouiller. J'ai dit, mais il faudrait rester ensemble, tout ça, continuer la vie collective, discuter, tout ça. Alors, avec mes relations, avec les musiciens ou autres, au quartier latin, je leur propose, vous est-ce que vous ne pourriez pas venir jouer l'après-midi, animer les trucs. J'ai dit, si, mais on veut que ce soit dans les locaux du PDT. Aucun problème. J'ai fait des concerts avec Jean Hugues, c'est comme ça, dans les cantines des PDT. J'ai même projeté le film Histoire d'un, qui était interdit en France à l'époque. On faisait des collectes dans la rue, et il y avait des syndicats qui faisaient des dons. J'avais demandé à voir l'origine et le montant des dons qu'on avait. Ça les a un peu gênés, mais ils me l'ont montré. Et j'avais un copain qui était secrétaire au syndicat du livre. C'est rallié la CGT, mais le syndicat du livre est un peu différent quand même. Il a des origines libertaires. Et j'avais été avec lui porter l'argent qu'il avait récolté. C'est une somme incroyable. Et cette somme, jamais elle a apparu.
Ah ouais.
Alors là, j'ai commencé à faire du rentre-dedans un peu. Bon, faudrait reprendre camarades parce que on devient impopulaire. On est pas impopulaire. On n'a jamais ramassé autant d'argent dans la rue en faisant la quête. Oui, mais les Français, bon. Écoute, si on est impopulaire, on peut être populaire du jour au lendemain. On revient dans nos secteurs, à tous nos taxiphones, on enlève le fil de terre et il marche à l'œil. Oh, mais c'est du sabotage. Si tu fais ça, on te dénonce. Et puis aussi, je l'ai gêné parce que je m'étais aperçu que, en vrai, quand j'ai les hebdos et tout ça, que chaque fois qu'il y avait un nouveau spectacle, soit théâtre, ou chanson, ou cinéma à Paris, les deux premières soirées étaient gratuites et étaient réservées à la presse. Alors, en vrai, quand j'ai les hebdos, ils avaient toutes les infos, ils me les donnaient. Et avec l'accord de mon chef de service, j'avais fait un panneau à côté du panneau CGT. Tu es seul, célibataire, tu viens de province, tu n'es pas très riche, ceci est pour toi. Et puis j'indiquais tout le spectacle. Tu pourras aller voir à l'estival Jean-Paul Vernier et Marty dans le cadre du soutien au Lorsa, comme dans toi. Et ça, ça leur a pas plu. Ça leur a pas plu. Bon, et puis après, j'étais muté en Aveyron. J'étais muté en janvier 1976.
Et donc, ton premier contact en Aveyron avec le Larzac, ça a été quoi?
Ah, ben, ouais, voilà. J'arrive.
Oui, vas-y.
Gabion canta l'amour et l'amistad humano et mangia lupa blanca pasta de libertà. Cridarei.
Premier contact, il y a une soirée d'information à la salle Galli, tu rappelles, à côté de la mairie là. J'y vais et un copain me présente un guitarlier. Je présente Geno Cérès, employé au télécom. Et Guy Darlier a fait tilt. Il me dit, oula, on ne veut plus te voir dans les manifs. Tu vas nous aider autrement. Ah, tu montes un jour et on t'expliquera. Alors à ce moment-là, au Larzac, il n'y avait que deux téléphones publics sur le plateau. Aucun des paysans n'avait de téléphone. Mais ils avaient tous demandé. Donc, les PTT avaient planté les poteaux le long des routes, mis des câbles sur les poteaux, mais calé dans le vide parce que les gens qui étaient pour le camp avaient dit « c'est pas la peine de remettre le téléphone, il va être expulsé rapidement ». Alors c'était l'époque où, dans l'Aveyron, le téléphone automatique n'était qu'à Rodez. Des villes comme Marcillac ou Sévérac étaient en transition. C'est-à-dire que ils appelaient avec un téléphone où il y avait les magnétos dessus. Et ils avaient une opératrice. Alors, on leur mettait progressivement, mais doucement, un téléphone qui puisse faire les deux, automatique et manuel à la fois. Alors j'ai dit, merde, avec ce matériel, qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, j'avais la possibilité de faire avec des tableaux qu'il y avait. Des tableaux qu'il y avait comme dans les grosses entreprises. Il y avait une ligne de téléphone et derrière quatre autres lignes, quatre services différents. Je dis, bon, si tu peux récupérer dans ces tableaux, tu peux mettre quatre téléphones différents. Et celui qui est au tableau, il peut faire l'opérateur ou il peut faire en sorte que deux s'appellent entre eux. Et là, c'est un truc à l'école d'araignée, tu vois.
D'accord.
Alors, j'allais chez les gens, ici, en Aveyron, mais dans Marcillac. Votre téléphone est défectueux. Je récupère votre poste à magnéto.
D'accord.
Et je vous mets un poste qui sera prêt pour pouvoir fonctionner dès qu'il y a l'automatique. Et il a récupéré comme ça une quarantaine, oui. C'est pas du vol parce qu'il y a l'encassé des autres.
D'accord.
Et
ces téléphones, tu les as descendus sur le plateau, alors ?
Ouais, alors c'est pas moi qui ai descendu. Parce que je me doutais que j'étais surveillé. Donc après, on a mis au point une stratégie pour leur dire je vous ai assez aidé, j'en fais plus. La lutte du Larzac. En Allemagne, il y avait à cette époque ce qu'on appelait la scène alternative allemande. L'extrême gauche au grand jour, quoi. Et avec les rassemblements au Larzac, j'ai connu des gens qui faisaient partie de cette scène alternative allemande. Ils avaient monté un réseau qui s'appelait Vin Hoc. Vin Occitan. C'était pour vendre du vin avec une étiquette politique, de deux vignerons qui avaient des problèmes très graves judiciaires, des gens qui étaient du côté de Béziers, je crois, je ne sais plus comment. Et puis il y a eu la lutte des vignerons du Midi, qui étaient arrêtés, les comités d'action viticole,
oui,
qui étaient arrêtés à la fusillade à Marodon. Donc, une partie de cette jeunesse allemande était attiré, ça voulait comprendre. Il me contacte, élection de Mitterrand en 81, ouais. Et Jeannot, nous, gauche radicale allemande, on ne comprend pas comment peut marcher un gouvernement avec des ministres communistes en France. Alors on prévoit une tournée avec le chanteur Marty, le leader des comités d'action viticole, Jeannot Vialade, Et toi, tu représenteras le Larzac. D'accord. Et on est parti en 82 ou 3. Ça fait une tournée superbe. Dans le sud, on est parti, il y avait un mouvement. C'était à côté de Stuttgart. C'est appelé le Bunchu. C'était une grande plaine agricole où le gouvernement voulait faire une piste d'essai de voitures. C'était pour Mercedes. Mais ils prenaient une vallée entière. Alors que l'usine Mercedes était à 80 km. Comme on n'est pas appuyé. En grattant, ils ont percé que c'était l'endroit où il y avait un carrefour de pipelines qui appartenait à l'OTAN. Donc, ils sont révoltés, ils ont refusé, les géomètres venaient les foutre dehors à coups de fourche. La deuxième ville, c'était Francfort. À Francfort, ils se battaient contre l'extension de l'aéroport. On a fait une soirée à côté de Francfort, là.
Toujours tous les trois, Marty,
ouais, ouais.
Et toi.
Alors, Marty commençait, et Vialad parlait après, et moi je parlais à la fin. Même c'était marrant, parce que Vialad disait des trucs, moi, je le conduisais. Je prends un exemple, avec Vialad, vieux militant de gauche, il disait des trucs, le nucléaire avait la gauche, il s'en sécurisait. Je suis pas d'accord avec Jeannot, parce que le nucléaire de gauche ou de droite, il sera toujours nucléaire. L'armée, c'est pareil, la police, c'est pareil. Tu vois, ça passait bien quand même, tu vois. Ils voyaient que c'était générationnel.
Donc vous avez fait cette tournée?
Ouais, Francfort, Cologne, puis on est allé ensuite à Hambourg. Hambourg, c'était la ville la plus en avance au niveau revendication politique. Et on est allé à Gorleben. C'est là que le gouvernement voulait enfouir, et même elle fait encore, des déchets nucléaires. Toutes les images que tu vois à la télé sur les trucs à du nucléaire, où les mecs, ils s'enchaînent sur les rails contre les trains, c'est là.
Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germénosée. Le tiers monde crève, les porcs en pif, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires. Parqués dans les cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des sages conduits à la démence, méthode devient ultra-violence. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte à coups de schlag, le sang inonde.
Rencontre rebelle avec Jean Serres sur Dissonance.
Et donc après cette tournée, tu t'es retrouvé, donc là tu t'étais investi pour le Larzac.
Ouais.
Le Larzac, il t'est rendu après accordé à empêcher l'extension du camp. Tu disais que tu étais à la CFDT, que tu avais été viré. Quel a été ton militantisme après?
Aucun.
Aucun?
Non. Non, non.
Attends, je t'ai vu souvent en pleine manif.
Ah oui, oui, les manifs, je les faisais toutes.
Ouais, ouais.
Puis ensuite, j'ai croisé ce qu'on appelle la faune autonome toulousaine. Les gens qui avaient créé le SCALP, les gens du Clodo, les gens, à chaque action, ils avaient un nom humoristique. Clodo, c'était comité, l'île liquidant les ordinateurs, tout ça. Bon, bref.
Moi je rêve d'un autre monde, la terre appartient à tout le monde. Toutes ces doctrines totalitaires qui font de nos vies un enfer. Je n'en peux plus de ces mensonges qui nous divisent et qui nous rongent. Qui profitent à la bête immonde, qu'attend son heure tapis dans l'ombre. Je suis antifasciste, on est antifasciste. Je suis antifasciste.
Et c'est là que tu vas croiser ou que tu vas t'occuper de Nopassaran?
Alors, Nopassaran, bon, j'allais toujours fréquemment à Paris. Et à Paris, j'allais à la librairie parallèle, voilà. Je prenais la revue Reflex. Reflex, c'était la revue des antifas au niveau national. C'était le moment où, quand Le Pen débarquait dans une ville, il y avait de très grosses manifs, souvent très violentes. Donc, j'apprends que Le Pen de venir à Rodez. Je monte à Paris, je récupère des affiches à réflexe, là. En fait, c'était pas des affiches, c'était des bandeaux. Où il y avait écrit pas de facho dans nos quartiers, tout comme ça. L'avantage, c'est qu'on pouvait seul mettre ça en travers d'une affiche du Front National. On pouvait travailler seul, coller seul. Alors, je reviens sur Odessa et se crée un comité contre de Le Pen avec les gens de gauche traditionnels, PS, PC et compagnie. Ça ne me convenait pas. Et avec des gens du Vallon, on a créé un comité un peu plus radical. Où il y avait là SOS Racisme, la Ligue de l'Homme. Mais ils voulaient surtout éviter l'affrontement, alors que moi je voulais du bruit, que ça pète. Alors, j'ai fait un tract. Ah, je te le donnerai.
Tu vois là, j'ai pris une photo, tiens, si je peux. Et donc tu as appelé à une manif, place de la préfecture à 15h, passé par la salle de la mairie où resteront les femmes, les enfants et les vieillards. Les guerriers, eux, se retrouveront à 20h30 au Forail.
Voilà. Je l'ai fait au boulot pour que ça ait de l'écho. J'ai mis ça aux 3 journaux.
La Dépêche, Midi Libre, Centre Presse.
Des boîtes aux lettres.
Enlevé de bouclier, titre La Dépêche du 13 janvier 92. Meeting de Le Pen à Rodez.
Donc, je les ai un peu affolés. Ils ont fait le récapitulatif des Toulousains. Ils ont dit, oh, l'extrême gauche radicale va débarquer à Rodez. Ils ont paniqué un peu tous. Pour ça qu'il y a eu tant de flics.
Et la manif s'est tenue, elle a eu lieu, il y a eu...
La manif, et puis le soir, du monde est... Il est descendu au Foirail. On n'a pas pu l'empêcher parce qu'il y avait trop de flics, c'était impossible. Quoi. Donc j'ai envoyé toutes les coupures de presse à Reflex, à la revue. Et puis un beau jour, Reflex m'écrit: es-tu intéressé par une réunion à Paris pour créer un réseau national ouvert sur l'international? Antifa, j'ai été. On a fait 3 réunions et puis on a créé le réseau Nopassaran. Voilà.
Où tu tenais des stands ici en Aveyron, tu diffusais la presse aussi antifasciste.
Ouais.
Et après le passage à l'âme, tu te retrouves à la retraite, comment tu continues, quel regard tu portes sur l'actualité, sur cette montée de l'extrême droite, sur ces jeunes qui ne sont peut-être pas forcément alertés par ce passé trouble qu'on a eu? Tu les sens aussi motivés que quand toi...
Non. Je sens qu'en France, on est moins politisé. Par exemple, avec l'Allemagne, l'Allemagne que j'ai connue il y a 20 ans. Un mec qui sort, un jeune avec un CAP. En France, il n'y aura qu'une envie. Travailler chez un patron pour se mettre à son compte. En Allemagne, la démarche est différente. Il créera un collectif. Collectif bâtiment. Il y aura un peintre, un charpentier, un menuisier, un électricien, un carreleur. Et ils prennent le gros chantier ensemble. Mm-hmm. Tu vois la démarche différente.
C'est différent, hein. Et tu penses qu'aujourd'hui, en 2024, elle existe toujours, cette gauche radicale et autonomiste, hein? Faire, ça existe toujours aujourd'hui?
Oh, c'est un peu éteint tout ça.
C'est ouais. Et d'où ça vient que ça se soit éteint, quoi?
Il y a toujours l'éternel problème entre la gauche et puis l'extrême gauche. Tu prends un groupe de trois anards avec des idées, des courants différents. Tu vois, quatre courants. Ils sont trois. Les ferrames, ils sont capables d'aller 21e.
Tu as encore des contacts avec cette scène punk ou avec tous les musiciens que tu auras croisés? Moi, j'ai un ami qui est musicien dans le sud de la France, Pierre Prouvez, qui me dit « Mais je connais Jeannot Cérès ». Un autre, Lilian de Rio, qui s'appelle Wally. « Mais je connais Jeannot Cérès ». Tu es toujours en contact avec, même aujourd'hui?
Oui.
Et alors chez toi, puisqu'on est chez toi, il y a du Léo Ferré, des photos et des posters de Léo Ferré partout. Quelle est ton histoire avec Léo Ferré?
Ah, Ferré, bon, je le connaissais à travers ses premières chansons, comme tout le monde. Et puis, il avait donné un concert à Paris, à la Mutualité. La CGT, un chien à la Mutualité. Et c'était une soirée. Des drapeaux noirs partout dedans. Et c'était superbe. Et avec Ferré, j'ai appris ce qu'on appelle la grande musique. J'ai redécouvert les poètes maudits qu'on appelle. Et puis il y a des textes que tu peux pas oublier. Les poètes comme on dit tout ça.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas. C'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière conduit vers les pays d'absurdité.
Et aujourd'hui, février 2024, tu es désabusé ou quel regard tu portes sur ce parcours? Le parcours de Jeannot Cérès.
Je ne regrette pas tout ce que j'ai dit, écrit ou pensé. Au contraire, je me méfie des autres. Je ne veux pas convertir. On m'accepte comme je suis, avec mes idées, ça plaît ou ça plaît pas. Il y a des gens que j'ai pas envie de revoir, que j'ai croisés. Actuellement, les gens qui ne peuvent rien m'apporter, c'est pas la peine que... Donc j'ai mon petit monde.
Et tu gardes l'espoir pour une société meilleure un jour.
Oui, oui, toujours. Mais je sais que je ne pourrai jamais la vivre.
Oui, mais tu as contribué à la faire venir, donc...
Oui. Je repense à Paris avec Moulin. Quand on va assister à une manif et que René Dumont, qui manifeste, qui quitte la manif, il vient te serrer la main sur le trottoir, tu te dis, merde, ce qu'on fait, c'est pas inutile. On a été les seuls hommes à être acceptés dans la première manif des femmes de Paris. Première manif, les pères étaient sur le trottoir avec des gamins dans les bras et nous, les filles, sont venues nous prendre des périodes électorales, Moulin et moi, pour être devant. Puis il y a des trucs marins où tu te fais la gueule. On avait été à un meeting en rapport avec le programme commun de gauche.
Ah, oui.
C'était à Marseille, je crois. Dans le théâtre, il y avait Juquin, Chevènement et pour le Rayet-Gruguère, de gauche, le maire de La Rochelle. Il parle. Et puis à un moment, Mona se lève dans le programme commun pour ne parler. Vous parlez très peu du nucléaire. Puis aussitôt, Juquin se lève. Ouais, Mona, tu n'as pas bien lu. Un baratin. Et on s'est fait virer, quoi. Mais se faire virer par Juquin et Chevènement, ça fait plaisir.
C'est un honneur. Pour moi, ça a été un honneur de t'entendre et d'avoir ta confiance.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi.
Je ne suis pas figé dans mes idées, elles évoluent tout le temps. Mais j'essaie de rester fidèle à ce que je pense, quoi.
Que tu pensais quand tu avais 20 ans et que tu penses encore, c'est toujours quand même ta même ligne de conduite.
Ah oui, oui. Mais elle évolue avec les rencontres. Alors on me dit, t'as eu la chance de faire ces rencontres. Je n'ai pas eu la chance. C'est pas le hasard. Quelque part, on les provoque. Je dis, si à Paris, j'allais traîner au quartier latin, j'étais peut-être le seul. Alors que tous les autres, vous alliez en discothèque, sur les grands boulevards. Moi, j'y suis jamais allé. La Tour Eiffel, j'ai vu qu'une fois. Parce que une copine voulait l'avoir.
Merci Jeannot.
Et lorsqu'on a peur de les anarchistes.
Salut.
Et fraternité.
Ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi? Avec l'amour au point sur la table ou sur rien. Avec l'air entêté qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas sur 100 et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'il y en a pas sur 100 et que pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout,
les anarchistes.